C'est Yannick, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer une vidéo totalement spoilers sur Final Fantasy VII Rebirth. On va analyser la fin, je vais essayer de vous l'expliquer, je vais essayer de l'interpréter, je vais essayer aussi de répondre à certaines questions et puis on va faire quelques théories sur l'avenir. Donc évidemment, cette vidéo sera pleine de spoilers, ne la regardez pas si vous n'avez pas totalement terminé le jeu. Et si vous comptez le faire, attendez de l'avoir fait avant de regarder cette vidéo parce qu'elle est vraiment full spoilers. Je vous invite, si vous avez terminé le jeu, à me laisser un commentaire pour qu'on puisse débattre ensemble sur certains points avec lesquels vous seriez peut-être en désaccord. En tout cas, cette vidéo, c'est uniquement mon interprétation. Il peut y en avoir évidemment plusieurs puisque c'est un jeu qui est assez complexe. Et je vous invite donc à rester courtois dans les commentaires et je serai ravi de débattre avec vous dans la section commentaires justement pour voir un petit peu si on peut trouver peut-être de nouvelles pistes quant aux explications du jeu, de sa fin et des théories pour le dernier volet de la trilogie Final Fantasy VII Remake Rebirth et on ne sait pas comment s'appellera le troisième volet. Voilà, vous êtes prévenus, à partir de maintenant, c'est full spoilers. Alors le pilier principal de FF7 Remake et Rebirth, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans plein d'œuvres récemment, c'est le multiverse. Alors moi, personnellement, ça me déçoit un petit peu. C'est mon avis, j'avais vraiment envie qu'on soit sur une seule réalité alternative et comprendre pourquoi cette réalité avait été créée, qui l'avait créée et voir comment les événements pouvaient se dérouler différemment sur une seule et même timeline. Et il y avait pas mal d'indices qui laissaient penser, notamment à la fin du DLC d'FF7 Remake, qu'on était sur deux timelines différentes au moins. Et en fait, là, on se rend compte qu'on est sur plusieurs timelines différentes. Alors, au sein d'FF7 Remake, on va principalement en jouer deux et potentiellement une troisième. Je vais discuter de ça un petit peu après. En tout cas, Sephiroth nous l'explique clairement à chaque fois que les frontières du destin sont entaillé, de nouveaux mondes sont nés. Alors moi je l'ai fait en anglais, c'est « When the boundaries of fate are breached, new worlds are born », vous remarquerez l'accent. Et en fait, certains, avec des personnes avec qui j'ai parlé des théories, me disaient « Ouais, c'est à la fin, c'est quand on tue les trois fillers géants, les trois héros fillers, les Whisper Harbinger en anglais, c'est à ce moment-là qu'on a créé de nouvelles timelines. C'est là, à ce moment-là, que quand les frontières du destin sont entaillées, comme le dit Sephiroth. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que dès le début de Remake, il y a des choses qui sont changeantes. Cloud voit Sephiroth qu'il ne voit pas dans l'épisode original. Il y a le fait que Barrett se fasse tuer, puis finalement n'est pas mort, chose qui n'arrive pas. Il y a plein d'événements qui se passent avant le combat contre les trois grands Whispers, contre les trois grands Fillers, qui divergent de la timeline originelle de Final Fantasy VII. Donc déjà cette timeline-là, c'est déjà une timeline qui est différente par rapport à l'original qu'on a connu depuis 1997. Mais ce qui est très important, c'est que dans cette timeline, on va en jouer une deuxième, c'est celle de Zack. Alors moi, évidemment, quand on fait le jeu, on se rend immédiatement compte qu'il y a deux timelines, et c'est explicité dès le chapitre 0, puisqu'on voit Zack qui porte secours à Aerys, et alors qu'il a toujours l'épée de Cloud et Cloud avec lui. Donc on se rend bien compte que on n'est pas dans la timeline où Avalanche a réussi son coup et on est dans une timeline où Cloud clairement n'a pas rejoint Avalanche, mais où Cloud, Aerys et Zack se retrouvent tous ensemble. Zack veille dans la maison de la mère adoptive d'Aerys sur Aerys et Cloud qui sont complètement dans les vapes, hein, qui sont dans le coma, on va dire. Et dans cette timeline-là, Marlène a une certaine importance. Elle sert un petit peu d'oracle parce qu'elle explique que si Aerys se réveille, le grand méchant va venir la tuer et que Cloud doit cette fois-ci être assez fort pour la sauver. Donc cette timeline-là, on se rend bien compte rapidement qu'on est sur une autre timeline, que c'est une timeline différente. Et en fait, ça avait déjà été un petit peu teasé lors de la fin du DLC de FF7 Remake, puisque on a en fait Stomp. Alors Stomp, c'est le petit chien qui sert un petit peu d'emblème de propagande de la Shinra. Il a toujours son casque, etc. Et en fait, c'est un, on va dire, un beagle, je pense, dans la timeline qu'on joue dans FF7 Remake, que ce soit avec, enfin, avec le jeu normal ou le DLC, on voit bien que c'est un beagle qui a un casque. Et en fait, lorsqu'à la fin de Remake, on voit les passages avec Zack, on se rend compte que la propagande, il y a toujours un chien qui s'appelle Stamp, mais c'est une autre race de chien. C'est un espèce de terrier. Et il n'y a pas un casque, il a une espèce de casquette. Et donc, en fait, immédiatement, on a cette espèce de fil rouge, si je peux me permettre, pour nous indiquer qu'on est dans des réalités différentes. Ça va être Stamp, ce petit chien, qui va à chaque fois changer d'apparence selon les réalités dans lesquelles on se trouve. Il y a un exemple très concret, c'est lors de Rebirth, quand on joue un des passages avec Zack vers la fin. Il se demande s'il doit choisir de sauver Cloud, de sauver Aerith ou de sauver Biggs. Et en fait, on va voir ces trois cas de figure. Alors la première fois que j'ai fait le jeu, je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et en refaisant une deuxième fois, en regardant le film du jeu, je me suis bien rendu compte, en fait, qu'à chaque fois, Stamp était différent. Une fois, c'était un petit bulldog avec un chapeau. Une autre fois, c'est un espèce de Welsh Corgi. Une autre fois, c'est un autre type de chien. Donc en fait, et au moment où il se pose la question, vous verrez, il est dans les tunnels sous Midgard, les tunnels ferroviaires. On a un espèce d'effet arc-en-ciel. Et là, on se rend compte que c'est à ce moment-là qu'à chaque fois qu'il prend une décision, il y a une réalité qui est créée. Et dans chaque réalité qui se crée, Stamp est différent. Donc, on va voir, à chaque fois qu'on va voir Stamp, on va voir qu'on est dans une réalité différente. Donc, en fait, toute cette explication globale à qu'est-ce que FF7 Remake et FF7 Rebirth sont, bah ce sont tout simplement on est dans un multivers. On est dans un multivers où on a la réalité principale que l'on joue, qui pour moi est différente forcément de celle de FF7 originelle. On est dans cette réalité-là. La réalité avec Zack, c'est une autre réalité, une réalité qui est différente. Alors, à quel moment elle a été créée? Est-ce que ce sont des à quel moment ces réalités se créent? On voit qu'à chaque choix, en fait, que l'on fait dans un choix important, une nouvelle réalité se crée. Donc, on peut avoir plein de moments différents dans lesquels les réalités se créent. Alors, beaucoup de gens disaient que c'est le fait d'avoir tué les trois grands fileurs héros, les Harbingers, qu'à la fin de Remake, qui avait sauvé Zack. Mais je suis pas d'accord parce que Zack, en fait, de base, il meurt avant que Cloud rejoigne Avalanche. Donc, ça ne colle pas en termes de temporalité. C'est juste que il y a une autre action qui a dû être faite dans le passé, qui a déjà créé une réalité où Zack survit, Cloud est mal en point et Zack sauve Aerith au moment de l'attentat loupé par Avalanche. Et place chez la mère adoptive d'Aerith, Cloud et Aerith dans un état végétatif. Donc ça déjà, c'est une deuxième réalité. C'est ces deux réalités qu'on va jouer principalement, celle avec Barrett, Cloud, etc., qui suivent plus ou moins l'aventure de FF7 original, et la réalité alternative de Zack, où Cloud et Aerith sont dans le coma. Mais en fait, on va jouer également une troisième réalité alternative, au moins dans ce Final Fantasy VII Rebirth. C'est au moment où Aerith est sur le point de tomber que Cloud la tient par la main et que Sephiroth finalement les laisse tomber tous les deux. À ce moment-là, on voit une réalité dans laquelle Zack a sauvé Aerith, il y a Marlène également, et le Cloud que l'on joue habituellement se retrouve dans cette réalité alternative. Il est réveillé comme par Aerith, qui lui dit: prends ça comme un rêve, en fait. Et évidemment, Cloud a aucun repère, là où Aerith a tous ses repères. Donc, est-ce que c'est la Aerith de cette réalité alternative qui va chercher Cloud? Est-ce que c'est... Parce que je pense qu'Aerith, depuis le départ, elle est consciente qu'il y a quelque chose autour des réalités, où elle en prend conscience petit à petit. En tout cas, le Cloud que l'on suit habituellement se retrouve dans une autre réalité alternative. Pourquoi il se retrouve là? Pourquoi Aerith l'amène dans cette réalité alternative? Ils font du shopping, ils essayent de se faire passer pour un couple pour prendre des photos, etc. On voit bien d'ailleurs qu'il y a un Stomp, donc la mascotte de la Shinra, qui est encore très différent. Et il y a une énorme déchirure dans le ciel. Aerith lui dit de pas regarder. Cloud regarde évidemment. Que veut dire cette déchirure? Est-ce que ça veut dire que le monde est en train de se faire aspirer par Sephiroth qui veut unir tous les mondes pour prendre toutes les énergies? Est-ce que c'est juste une déchirure sans conséquence pour permettre la porosité entre les réalités alternatives? On n'a pas encore d'explication là-dessus. En tout cas, Iris, elle utilise cette réalité parce que dans cette réalité, sa matière blanche, elle est intacte là où dans la réalité qu'on joue, elle est devenue transparente. Donc en fait, elle prend Cloud dans cette réalité pour lui remettre la matière blanche qui est cruciale, au même titre que la matière noire, qui joueront un rôle central dans le prochain volet de la trilogie. Et donc en l'attirant dans cette réalité alternative, elle peut lui remettre une matière et puis elle le repousse au moment où Sephiroth rentre dans l'église justement pour la tuer, elle le repousse dans sa réalité d'origine. Donc on a bien la preuve entre les timelines qui ne correspondent pas les unes avec les autres, celle de Zack ne correspond dès le chapitre 0, on se rend bien compte qu'il y a deux timelines, on se rend bien compte aussi que Sephiroth nous l'explique, on le voit avec des différents flashs, et on voit Cloud qui voyage de réalité en réalité, et donc on est bien dans un multiverse, là où Sephiroth en est pleinement conscient, il va en tirer parti, et je pense qu'Aerys aussi en est consciente, et c'est pour ça qu'elle va utiliser la réalité, une réalité alternative, un monde, une autre réalité, pour pouvoir donner la matière blanche à Cloud. Donc ça, c'est la base en fait de Remake et Rebirth, ce sont les réalités alternatives, il y en a plusieurs. On voit même Zack, à la fin, qui, dans l'église, se dit... Tiens, vu qu'il a compris un petit peu tout ça lui aussi, il dit bah, j'espère qu'il y a une réalité dans laquelle on peut être réunis tous les trois. Et avec la façon dont c'est filmé, pour moi, ça laisse quand même un petit peu d'espoir qu'on puisse avoir une réalité avec un happy ending, ce que personnellement je souhaite. Mais l'happy ending, il est pour l'instant compliqué dans la timeline principale, puisque se pose la question d'Aerys. Aerys. Sa mort est certainement le moment le plus tragique, le plus triste de l'histoire du jeu vidéo, en tout cas l'un des plus tristes, l'un des plus emblématiques. C'est sûrement cette scène qui a contribué à la légende de Final Fantasy VII. Et donc, quand on a compris des remakes que l'on jouait quelque chose d'alternatif, on s'est tous demandé... Peut-elle survivre? C'était tout le ce qui m'a pris pendant toute mon aventure lors de Rebirth. C'était pitié pourvu qu'elle survive, parce que moi, oui, je voulais qu'elle survive. Je voulais vraiment, en fait, que Zack et Aerys et Cloud soient dans la même réalité et survivent. C'était mon vœu. Évidemment, chaque fan aura des souhaits différents. Malheureusement, Aerys, je pense qu'elle a bien conscience qu'elle doit mourir. Il y a plusieurs choses qui nous l'indiquent au fil de l'aventure. On sent une espèce de mélancolie, elle fait des sous-entendus, donc je pense qu'elle a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'elle a conscience des réalités alternatives, et je pense qu'elle a conscience qu'elle a un destin, et son destin, c'est de mourir de la main de Sephiroth pour mieux protéger la planète avec la prière, ensuite, à la fin du jeu, à la fin du troisième volet des aventures. Mais ce qui est très 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 étrange, et c'est pour ça que l'effet fonctionne extrêmement bien dans Rebirth, c'est que Cloud, au moment où Sephiroth descend du ciel, la même scène que dans l'original, avec toutes ces plumes noires qui indiquent vraiment quelque chose de l'arrivée de ce grand méchant si emblématique et si charismatique, eh ben Cloud se lève, malgré que le destin veuille l'en empêcher, il se lève et il bloque l'attaque de Sephiroth. Il la bloque. Il bloque cette attaque et Aerys est vivante, elle survit, elle est dans ses bras. Sauf que, quelques secondes plus tard, on voit une autre réalité, c'est l'explication que j'ai, où, et c'est la réalité, je pense, la vraie réalité, entre guillemets, je pense que les créateurs nous ont fait jouer une petite réalité alternative dans laquelle elle peut survivre, ou alors est-ce Cloud qui est fou, je reviendrai sur Cloud plus tard, mais en tout cas, on voit bien le sabre de Sephiroth qui dégouline de sang et Aerys qui se tord de douleur. Donc, c'est assez difficile à expliquer puisqu'on voit bien le blocage de l'attaque de Sephiroth. On voit bien Aerys vivante dans les bras de Cloud. Et surtout, on voit à ce moment-là, au moment où Cloud bloque l'attaque de Sephiroth, on voit cet effet arc-en-ciel. Le même effet arc-en-ciel qu'on a vu au moment où Zack doit prendre la décision dans les tunnels ferroviaires. Est-ce qu'il doit sauver Biggs ou Cloud ou Aerys? Et on voit ce moment-là sur l'autre voie ferroviaire, on voit un énorme effet d'arc-en-ciel. Donc, pour moi, j'ai interprété ça comme à chaque fois qu'on va voir cet effet-là, plusieurs réalités qui se créent. On crée des embranchements de temporalité. Et là, clairement, en faisant ça, Cloud a créé une autre réalité. Sauf que la réalité dans laquelle il se trouve vraiment, malheureusement, elle décède. Alors, c'est un petit peu confus, je vous l'admets, mais elle est bien décédée. Puisque tout le groupe est dépité, on voit qu'il y a un silence de mort. D'ailleurs, j'ai trouvé toutes ces scènes absolument merveilleuses et touchantes et dramatiques. Et vraiment, j'ai été très ému tout au long de cette partie. Il n'y a que Cloud qui continue à l'entendre, à la voir. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir voyagé Cloud, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, lui-même au sein d'une autre réalité alternative, celle où Aerys lui montre le ciel déchiré, là où ils font un petit peu de shopping ensemble. Est-ce que c'est ça qui lui fait que lui-même a une espèce de porosité aux réalités alternatives? Est-ce que c'est parce qu'il est fou? Et on voit bien que Cloud, encore plus que dans l'épisode original, il est sévèrement atteint par ce mal-être qui va être expliqué par le fait que ce n'est pas lui. Tous ses souvenirs ne lui appartiennent pas, par le fait qu'il était un fruit d'expérience. Et je pense que le fait qu'il soit assez perturbé peut aussi lui avoir fait croire qu'il a sauvé Aerys, alors qu'il ne l'a pas sauvé et il entend des voix. Je préfère, moi, me dire qu'effectivement, Aerys arrive à lui parler depuis une autre réalité alternative, comme elle a réussi d'une autre réalité alternative à lui faire voir Midgard avec ce ciel déchiré pour lui confier la matière blanche. Mais en tout cas, dans la réalité alternative que l'on suit, la réalité alternative par rapport à FF7 normal, mais la réalité, la timeline principale de Rebirth et Remake, Aerys est bel et bien morte, clairement. Et même si Red 13 la sent, je pense que c'est un reflux de son âme dans la Mako, comme lors d'une quête secondaire que je vous invite à faire. Je crois que c'est à Cosmo Canyon, il me semble. C'est une des quêtes secondaires avec des mini-jeux, etc. Où Barrett, justement, entend la voix de l'un de ses anciens camarades de chez Avalanche. Et du coup, je pense que c'est un petit peu ça qui se manifeste, comme Red 13 est assez sensible à la planète et tout ça. Mais voilà, clairement, pour moi, Aerys est décédé. Maintenant, le petit moment de flottement au moment où Cloud bloque l'attaque et Aerys est vivante, et puis quelques secondes après, en fait, il se rend compte qu'elle est morte, ça laisse un petit peu sujet à interprétation. Je pense pour moi qu'il y a eu juste séparation de timeline et que la timeline qu'on suit, c'est la timeline où malheureusement, tout doit suivre un petit peu son cheminement avec la mort d'Aerys. Donc je vous l'ai dit, Aerys est morte, en tout cas dans la timeline que l'on suit. Pour autant, elle promet à Cloud de tout faire pour arrêter le météore. Donc quelque part, elle est aussi, je pense, dans une réalité alternative, elle est là. Et en parlant de réalité alternative, celle qu'on suit tout au long de l'aventure, celle de Zack, on retrouve Zack qui se demande, après avoir combattu aux côtés de Cloud, parce que les réalités se sont chevauchées, et il y a eu ce très beau moment où Cloud, le Cloud de la réalité principale de Remake et Rebirth, et le Zack de la réalité alternative que l'on suit tout au long de l'aventure, se battent together contre Sephiroth. Mais il se retrouve à nouveau tout seul dans une réalité où Cloud est dans le coma, Aerys est dans le coma, et en fait, il lève les yeux vers le ciel et il se demande si on a pu être unis une fois, est-ce que de nouveau on pourra être unis à nouveau? Et moi, Zack, c'est un personnage que j'aime énormément, et je rêverais vraiment qu'on le revoie plus dans le prochain épisode. J'ai vraiment envie de suivre cette autre timeline qui m'intéresse énormément et voir si les choses peuvent s'arranger pour tout le monde. En fait, ça serait vraiment bien, puisque dans cette réalité là je pense que Cloud ne va pas survivre et je pense qu'Aerys ne va pas se réveiller. De toute façon, c'est ce que Marlène dit à Zack, il faut que Cloud soit suffisamment fort, parce que si Aerys se réveille, le méchant va venir la tuer. Après, est-ce que la déchirure dans le ciel veut dire qu'on est dans un monde à l'agonie? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a pas mal d'espoir, je trouve, dans cette scène. Moi, j'ai été très touché parce que le personnage de Zack, je vous l'ai dit, c'est mon personnage peut-être préféré de tout le FF7-verse, on va dire, maintenant même le multiverse. Mais en tout cas, voilà, il y a malgré la tristesse de la mort de d'Aerys, qu'on pensait éviter, et surtout grâce à la fin des développeurs de nous faire croire que, puis en fait de rebifurquer vers le destin. Il y a la promesse d'Aerys de sauver le monde. Il y a la promesse que se fait Zack à lui-même, le rêve qu'il esquisse de pouvoir être de nouveau réuni avec ses amis en bonne santé. Et puis il y a tout le groupe qui repart avec l'avion de Sid qui est réparé, chose qui était, il me semble, pas le cas à ce moment-là de l'aventure dans l'original. Alors peut-être que je me trompe, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, mais en tout cas le groupe, malgré l'abattement qui et la tristesse qui s'abat sur eux, ils sont plein d'espoir, et cette fin, elle est terriblement triste, mais elle est aussi porteuse de beaucoup d'espoir, si ce n'est dans quel état se trouve Cloud et quel est le plan de Sephiroth. Alors, Cloud, il est clairement, on le voit, hein, clairement, on le sait, Cloud est une expérimentation de Hojo qui lui a injecté des cellules de Genova. Il y a cette histoire où sa mémoire lui fait complètement défaut. Il a les souvenirs de Zack, exactement comme dans le premier jeu. Et en fait, il est connecté à Sephiroth, qui fait un petit peu de lui sa marionnette. C'est pour ça que, à la base, il lui remet la matéria. Mais finalement, en se rendant compte qu'il l'a dans la poche, il la sort et il dit la réunion. La réunion, c'est vraiment c'est l'appel de Genova, des cellules de Genova pour toutes les personnes qui ont été injectées pour se retrouver pour remettre Genova sur pied et pouvoir invoquer le météore et détruire la planète pour que Sephiroth puisse régner en maître là-dessus. Et donc Cloud, malgré toute sa bonne volonté, on le voit plusieurs fois craquer, notamment lorsqu'il attaque Tifa, hein, on voit vraiment, il attaque les soldats de la Shinra avec une violence terrible, il attaque Tifa, et on voit que malgré tout, il obéit toujours aux ordres de Sephiroth, et lui-même commence à murmurer réunion, comme si il était déjà atteint de la dégénérescence un peu plus vite, et il planque bien la matéria noire, cette matéria horrible, dans sa grande épée, ce qui veut vraiment dire que Cloud, il est sévèrement atteint. C'est bien pour ça que je me demande parfois si les visions qu'il a d'Aerys, est-ce que c'est pas une conséquence de sa folie, entre guillemets, de sa dégénérescence, ou est-ce que c'est l'Aerys d'une autre réalité qui vient lui parler? Ça, c'est libre à interprétation. En tout cas, pour l'instant, le plan de Sephiroth se déroule à merveille, si ce n'est pour la matéria blanche qui a toujours le pouvoir de sauver la planète et qui sera sûrement très importante. En tout cas, tout le monde va se diriger vers le cratère nord, puisque c'est là où Sephiroth, le vrai Sephiroth, se trouve, entre guillemets, puisque tout ce qu'on a vu là, si on s'en tient au jeu d'origine, sont des apparitions pour la fameuse réunion, pour pouvoir réaliser le plan de Sephiroth. Sephiroth qui non seulement veut contrôler le flux d'énergie de cette planète-là, mais de toutes les réalités alternatives pour devenir vraiment le maître non seulement du monde, mais le maître de tous les mondes. Et pour ça, en fait, il va falloir surtout détourner l'attention. Et c'est pour ça qu'on voit le personnage de Glenn Lodbrok. Alors Glenn Lodbrok, il faut avancer dans Dodge of Cerberus, et je remercie Kix qui regardera certainement cette vidéo bien plus tard pour m'avoir un petit peu aiguillé là-dessus. Glenn Lodbrok, c'était un des premiers, si ce n'est le premier soldat qui est créé, mais sans cellule de Genova. En tout cas, il est complètement manipulé par Sephiroth, c'est censé être le représentant du Wutai, cette région séparatiste qui est en guerre contre la Shinra, c'est la région dont vient Yuffie, et Glenn Lodbrok, c'est un peu le visage public du Wutai, et clairement, il est manipulé par Sephiroth. C'est un moyen, en fait, de pouvoir lancer une guerre et de pouvoir faire en sorte d'avoir le champ libre pour être tranquille, peut-être détourner les armes de leur mission principale, à savoir, enfin, de l'anéantissement de Sephiroth, etc. En tout cas, il manipule ce Glenn Lodbrok, il le manipule totalement, on le voit, hein, c'est vraiment un pantin de Sephiroth, il le manipule pour alimenter le conflit entre la Shinra et le Wutai, ce conflit qui va en tout cas permettre d'éviter certains accros dans son plan, de détourner l'attention et de faire en sorte que le monde plonge un peu plus dans le chaos. Alors, pour conclure, vers quoi va nous amener Final Fantasy VII, troisième épisode? Je ne pense pas qu'il s'appellera Réunion. Est-ce qu'il s'appellera Résurrection, Révolution? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, j'ai l'impression que Cloud, ça va être vraiment un épisode qui va être centré, je pense, sur que la santé mentale de Cloud, l'acceptation de son réel passé, ça va être très important. Est-ce qu'on va de nouveau voir Cloud? Zach, pardon, est-ce qu'on va de nouveau voir Iris? Est-ce que les réalités alternatives vont encore plus fusionner pour justement peut-être faire en sorte que tout le groupe puisse se retrouver, d'avoir un groupe avec un Cloud, un Zach, un Barrett, un Iris, un Tifa? Est-ce que la guerre contre le Wutai va mettre la planète à feu à sang? Jusqu'à où Sephiroth va pouvoir mettre à exécution son plan? Toutes ces questions vont certainement nous hanter pendant plusieurs années. J'espère qu'on attendra moins de temps entre la sortie du deuxième épisode et du troisième qu'entre la sortie du premier et du deuxième. En tout cas, pour résumer, on est clairement face à un jeu qui joue sur les multivers, donc quelque chose de très à la mode, pour le meilleur et souvent malheureusement pour le pire. Là, pour l'instant, c'est pas ce que j'espérais, mais c'est pas catastrophique, loin de là dans l'exécution. Donc on est dans un multivers, on a joué deux univers très différents. En plus de l'original de 97, on joue un univers différent qui est quand même très proche avec Remake et Rebirth. Et dans Rebirth, on joue avec Zack une deuxième réalité alternative, voire une troisième quand Aerys et Cloud se réveillent dans une autre réalité, là où Aerith donne la Materia Blanche à Cloud. Donc clairement, on est dans un système de réalité alternative. Dans celle que l'on suit, malheureusement, et malgré le fait que Cloud est quand même dans sa tête, ou tout du moins, ou dans une réalité alternative, bloqué le coup de Sephiroth, dans celle que l'on suit, Aerith est bel et bien morte. Mais la Black Materia et la White Materia sont là où elles doivent être à ce moment-là. Cloud perd de plus en plus la boule. Sephiroth a vraiment un plan, et cette fois-ci, il a l'air vraiment déterminé à être le maître de tous les mondes et d'utiliser toutes les énergies de tous les mondes pour arriver à ses fins. Il utilise aussi la guerre entre la Shinra et le Wutai pour pouvoir détourner l'attention et avoir du chaos. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Final Fantasy VII. Rebirth et sa suite. Je tiens aussi à préciser que Zack, dans sa réalité alternative, avec un Cloud mourant et une Aerith dans le coma, rêve de pouvoir rejoindre ses camarades. J'espère que ce rêve sera exaucé. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir le troisième jeu et je suis très content d'avoir pu partager avec vous mon avis et mes explications sur la fin. Mes théories, j'espère que vous allez pouvoir discuter avec moi en commentaire au fil des semaines dès que vous avez fini le jeu et que vous aurez vu cette vidéo. J'espère qu'on pourra discuter ensemble, débattre. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la chaîne, à mettre un pouce, lâcher un commentaire. Et si vous voulez vraiment aider, il y a le Patreon qui est en description de la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus sur la chaîne des Chers Players. Ciao, ciao!